Ce matin, je voulais vous parler, le titre de mon message est le suivant, « Les personnes que vous fréquentez influeront votre vie spirituelle ». Et je pense qu'il est important de considérer que notre vie, elle est faite de connexions divines et parfois malines. Et je voudrais juste m'arrêter quelques instants là-dessus, partager avec vous sur ce sujet, parce que c'est important pour nous de pouvoir réaliser cela. Et vous savez, chaque personne que nous fréquentons influe notre vie spirituelle, notre qualité. Notre qualité, elle peut aller dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Notre vie spirituelle peut grandir comme se régresser en fonction des connexions que nous aurons, des relations que nous aurons avec les gens. Chaque personne que nous fréquentons peut ajouter, mais elle peut aussi soustraire. Elle peut multiplier ta vie, mais elle peut aussi la diviser. Diviser, soustraire, multiplier, ajouter peut-être dans la foi, peut-être dans la joie. Tu peux avoir ton enthousiasme, soustraire ou peut-être multiplier. Tu peux avoir des craintes qui peut-être, je dirais, là, et qu'on t'ajoute dans ta vie, et qu'on te remet encore dans ta vie. Il peut y avoir aussi des doutes, du zèle, de la consécration, peut-être de l'intégrité, de l'humilité, peut-être notre vision. Notre vision peut être parfois, divisée, bousculée, remuée, alors que nous avions reçu des promesses de Dieu, ou même parfois l'espérance. Tout à l'heure, notre frère a parlé de cette espérance. Personne, écoutez-moi bien, personne ne nous laisse indifférents. À un moment donné dans notre vie, il va y avoir des influences qui vont déterminer ta vie spirituelle. Quelqu'un disait ceci, je cite, « Il y a des personnes en présence desquelles vous vous sentez plus fort et d'autres en présence desquelles vous vous sentirez plus faible. Le choix de vos fréquentations vont donc déterminer le niveau de votre productivité. La quantité et la qualité du fruit que vous porterez sera influencée par la nature de l'environnement dans lequel vous allez évoluer. Faites les bons choix. Savoir reconnaître et fréquenter les bonnes personnes accélérera ou ralentira, voire freinera votre productivité en Christ. » Et c'est pour cela que dans Matthieu 3, 8, l'auteur pouvait dire ceci, « Produisez donc des fruits dignes de la repentance. » Nous avons des fruits, nous les avons développés au fur et à mesure des années, ça a pris du temps, c'est long. Parfois, il faut beaucoup de persévérance, de patience, de larmes. C'est celui qui sème avec larmes qui récoltera les champs d'allégresse. Mais parfois, sur ce chemin, il y a des situations, il y a des personnes, il y a des contextes qui vont faire que ça va freiner, ça va bloquer, ça va stopper, ou ça va accélérer, ou ça va complètement se détruire. Alors, je voudrais partager avec vous trois types de personnes. Je crois qu'il y a un problème au niveau du micro, hein ? Non ? Vous avez trois types de personnes. Un type d'amis qu'il vous faut pour porter beaucoup de fruits. On va voir un type de personne que Dieu enverra vers vous. Et puis nous allons voir de suite là, quatre types de personnes que Satan enverra vers vous. Les quatre types de personnes que Satan enverra vers vous, ça va arriver, ça peut arriver, peut-être c'est déjà arrivé, mais il faut s'y attendre. Si nous voulons progresser, il y aura forcément des obstacles, forcément des moments difficiles. Et quelqu'un disait, je cite, « Votre élévation viendra par une personne, votre chute aussi. Votre provision viendra par une personne, mais votre disette aussi. » Et quand on s'appuie sur une personne pour être élevé, cette même personne, tôt ou tard, te rabaissera. Parce que c'est le Seigneur qui doit être élevé, pas nous. Et on verra des gens qui viendront comme nous encenser, nous porter au nu et nous apporter toutes les louanges qu'il faudra. Et on va se sentir fort, on va y croire, on va prendre la grosse tête. Et ça peut arriver dans un succès spirituel. Et bien ces mêmes personnes-là, à un moment donné, seront là pour te faire chuter. Et c'est pour ça que nous avons besoin de comprendre ceci ce matin. Si vous aspirez à faire des exploits avec Dieu, attendez-vous à rencontrer ces personnes. Parce qu'elles viendront. Et peut-être qu'on ne s'en apercevra pas forcément sur le moment. Ça mettra du temps pour réaliser, pour comprendre que derrière, ce sont plutôt des personnes qui seront là pour te bousculer, pour t'enfoncer, que pour t'élever et te fortifier. Quelqu'un disait, il n'y a pas de bénédiction sans combat. Alors des combats, t'en auras. Et tu rencontreras des personnes sur ton chemin qui seront là pour se battre avec toi. Et tu ne le verras pas, je dirais, au premier abord comme cela, tu t'en apercevras pas, mais elles seront là réellement pour ça. Et en étudiant le livre de Néhémie au chapitre 4, chapitre 6, ben vous découvrirez quatre types de personnes que Satan enverra pour votre vie et pour vous arrêter. Et je voudrais que nous puissions voir cela justement ensemble. Celles qui viendront d'abord pour vous détruire, et on va le voir comment. Celles qui viendront pour vous décourager. Celles qui viendront pour vous défocaliser. Et puis, celles qui viendront pour vous distraire. Alors, quand je lis dans Néhémie, au chapitre 4, verset 1er, il a dit ceci dans les deux versets. Il a dit, lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit, devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous les monceaux de poussière et consumées par le feu? Là, on s'aperçoit dans ce passage qu'il y a, comment dirais-je, une destruction. La destruction par l'intimidation, par la menace, par la peur. Ça se voit pas quand on est détruit à l'intérieur. Quand les gens sont minés par des accusations, sont minés par des menaces. Parfois, on veut faire bonne figure, on essaye de mettre le masque. Mais dedans, on est pilonné. On se détruit à l'intérieur, mais on ne veut pas le montrer, parce que le montrer, le partager, peut-être que tu penses que c'est un signe de faiblesse, peut-être que tu penses que ça va gâcher peut-être les projets que tu as mis en place. Alors tu caches cela, mais à l'intérieur, tu es en train d'être détruit. Vos ennemis vous poussent à chercher Dieu et vous obligent à rester humble, certes, et c'est vrai, c'est la réalité, puisque au verset 14, il dit ceci de très important, toujours au chapitre 4, je vais vous le lire. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats, au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, et pour vos femmes, et pour vos maisons. Et là, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Il a dit, souvenez-vous du Seigneur. Tiens, ça me fait penser à un texte. Sauf erreur de ma part, c'est dans Timothée. Vous nous avez parlé justement de l'apôtre Paul qui dit ceci. Il dit, souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ. Vous savez que dans ces moments-là, dans ces moments de circonstances dures, difficiles, où tu es en train d'être détruit à l'intérieur, où personne ne voit cela, même pas tes enfants, tu n'as même pas partagé à ta femme, tu as peur qu'elle soit peut-être touchée, affaiblie, je dirais peut-être même elle aussi détruite à l'intérieur. Alors tu essayes de protéger ton monde, mais en fait, au lieu de protéger ton monde, tu es en train de détruire ton monde. Et c'est ce que le diable veut faire. Et c'est pour cela que David pouvait dire, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Et tu es en train d'être consommé, détruit, brisé à l'intérieur. Et ça, c'est le but de l'adversaire dans la rencontre que tu as faite avec lui, au travers d'une personne. Celles qui viendront pour vous décourager. C'est au verset 3, Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement si un renard s'élance et renversera leur muraille de pierre. Découragement. Elle ne croit pas, et certaines personnes ne croient pas à vos aptitudes. Ils doutent de vos talents, de tout ce que vous pouvez essayer de faire. Et chaque fois que vous ferez quelque chose, elles seront là, ces personnes, pour vous dire que finalement, non, ce n'était pas terrible. Elles prétendent vouloir votre bien, mais passent leur temps à vous rabaisser. Et il y aura des gens qui seront là toujours pour essayer de vous décourager. Et vous dites, mais tu sais, si je te dis, c'est pour ton bien. Mais à chaque fois, ce sont des paroles négatives. Vous n'avez jamais entendu parler en cette personne de quelque chose de positif. Dans ma jeune vie chrétienne, dans mes tout débuts, j'étais dans l'église avec deux, trois personnes. Et ces personnes-là, elles avaient toujours des paroles négatives. Mais tout le temps, j'ai essayé de savoir à quel moment elles pouvaient avoir une bonne parole d'encouragement. Et je n'en ai pas trouvé en deux, trois mois avec elles. Et pendant ces deux, trois mois avec ces personnes, je me suis senti comme, comment dirais-je, souillé, mais vide. J'arrivais pas à me remplir de Dieu. Il y avait comme quelque chose, il y avait une sorte de tristesse qui était là. Et à un moment donné, je me dis, si je continue comme ça, je vais m'effondrer sur ma vie spirituelle, je vais m'écrouler. Et à un moment donné, j'étais obligé de me déconnecter par rapport à eux. Parce qu'il y avait comme un esprit de découragement sur ma vie. Vous voyez, ils utilisent la peur pour vous paralyser, pour vous intimider. C'est terrible, le découragement. Essayez de vous montrer qu'il ne faut pas aller plus loin. Dans quel but ? Là, cet homme, on s'aperçoit que son Bala commence à menacer. Oh, si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Et alors, laisse tomber. T'embête pas, ne commence pas à combattre alors le peuple d'Israël, puisque tu sais que le mur va s'écrouler. Laisse tomber. Mais au fond, derrière tout ça, il s'apercevait très bien qu'il y avait quelque chose de solide qui était en train de se mettre en place. Vous savez, il y a des gens comme ça qui venaient vous décourager parce qu'ils savent très bien que quelque part derrière, il y a quelque chose de solide qui est en train de se mettre en place dans votre vie. Quelque chose que eux n'ont pas. Et parce qu'ils ne l'ont pas, on ne voit pas pourquoi, eux devront l'avoir. Alors, ils feront tout pour essayer de vous stopper dans ce projet. Et puis, il y aura ceux qui viendront pour vous défocaliser. On le voit au verset, déjà au chapitre 6, verset 6 à 9, il est dit ceci. Mais il est écrit, le bruit se répand parmi les nations de Gachmu, affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem, roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc, consultons-nous ensemble. Je fis répandre à Sambala ce que tu dis est faux. Ce n'est pas vrai. C'est toi qui l'inventes. Et Sambala avait commencé à mettre la rumeur à Néhémie et dans tout le peuple en disant « Attention, Néhémie veut remplacer le roi, veut se faire roi dans tout Israël. Il faudra essayer de remplacer le roi qui est déjà établi officiellement. » Il commençait à mettre une rumeur tout autour de lui. Terrible les rumeurs. Vous rencontrerez des personnes qui viendront pour épuiser, pour vider votre énergie, vous éparpiller votre temps. La rumeur a une place de choix dans ces moments-là. Le diable viendra essayer de te discréditer, de te salir aux yeux des autres. Sambala est allé voir tout le monde en disant « Attention, Néhémie veut devenir roi !» Or que c'était faux, c'était le mensonge. Commencer à salir, à détruire. Des gens qui viendront peut-être autour de toi, viendront voir tes amis, ta famille et dire ce que tu es. Alors que ce que tu es, c'est faux, c'est pas vrai. Mais essayez de répandre peut-être une certaine rumeur, certaines choses, on ne sait jamais, vous savez. Voilà, on distille certaines pensées. On ne va pas plus loin, vous voyez, on laisse faire. Et puis, ça remue dans la conscience des gens. Ah bon, il est comme ça, lui comme... Et on essaye de détruire, mais à petit feu. Le diable n'agira jamais frontalement. Jamais. Il ne peut pas frontalement. C'est trop violent et tu vas réagir de suite. Là, ça va être doucement. Mais sûrement, celles qui viendront pour vous distraire aussi, vous poussent à rechercher ce qui est futile. Certaines personnes, elles sont souvent là, rien à faire, mais elles veulent le faire avec vous et vous détourner du but. Elles trouveront toujours des idées. Tiens, écoute, je vais faire ceci, cela, tu ne peux pas venir avec moi. Laisse ton projet, laisse cela, viens avec moi. Et à chaque fois, vous détournent du but que vous étiez atteint et que vous vouliez saisir. Et à chaque fois, vous aurez des personnes qui vous trouveront toujours quelque chose à faire. Vous détournera du projet, du plan divin. Et vous allez vous retrouver là avec cette personne et vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai accepté? Vous aurez quatre personnes comme ça. Vous en aurez peut-être plus, mais je vous en ai cité quatre parce que finalement, ce sont les quatre principales que nous retrouvons régulièrement sur notre vie. Et puis après, vous avez d'autres personnes et celles-là, elles viendront aussi sur votre chemin pour vous amener plus loin. Et je dirais que c'est un type d'amis qu'il vous faut pour porter beaucoup de fruits. Toute votre vie sera jalonnée de personnes qui construiront votre avenir. Vous ne construirez jamais tout seul. Dites-vous bien une chose, c'est qu'on ne peut pas se la jouer perso dans la vie chrétienne. Celui qui est solitaire, je le plains. Celui qui est isolé, je le plains. Celui qui veut construire seul, je le plains. Parce qu'il ne construira jamais rien. Tu as besoin minimum d'une autre personne, c'est Jésus. C'est un binôme. Je vais vous dire une chose, lui le Seigneur dit, mais pas question, on va pas jouer tous les deux. Hein. Tu as des chrétiens dans l'église. Tu as un peuple qui est là, tu as des qualités, tu as des talents, tu as des dons. Tu ne peux pas jouer tout seul. Et ce ne sera pas tout seul que tu vas gagner. Et je crois que nous avons besoin de réaliser cela dans notre vie. Et il y a un homme dans la parole de Dieu, c'est dans le livre des rois, on pourrait peut-être y aller, vous connaissez bien ce livre des rois, au 2 rois chapitre 2. Ces deux hommes qui étaient là, qui se connaissaient très bien, c'était Élie et Élisée. Et il est dit ceci, je vais vous le lire ce contexte parce qu'il est très intéressant pour vraiment comprendre la pensée de l'auteur. Deux rois, chapitre 2, verset 1er, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point, ils redescendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais, taisez-vous. Il dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Et il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se séparèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu se séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Amen. Alléluia. Et verset 15, les fils des prophètes étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dire l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Il y a eu une connexion là. À un moment donné, il y a eu une rencontre qui a été déterminante pour Élisée. Je voulais vous dire, frères et sœurs, que dans votre vie, il y aura, si ce n'est pas déjà fait, des rencontres déterminantes pour votre vie spirituelle. Et quand je parle de vie spirituelle, je parle même de vie toute courte, dans votre milieu professionnel, dans votre quotidien, mais il va y avoir des connexions qui vont se faire. Là, les Élie sont ceux qui remettent en cause votre condition actuelle, qui refusent le statu quo. Ils croient en votre potentiel. Et on le voit dans ce passage, puisque à plusieurs reprises, Élie dit, reste ici, je te prie, Élisée, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Et à chaque fois, il bouscule Élisée. On voit qu'Élie est en train de le secouer, de le remuer. Il veut savoir exactement où il veut aller. Il veut voir s'il a des tripes. Cette Élisée. Il veut voir s'il y a du mordant, s'il a vraiment envie d'aller jusqu'au bout. Alors à chaque étape, il lui dit, mais reste ici. Il dit, non, je ne veux pas rester. Je veux aller avec toi, ce n'est pas grave. Je veux vraiment persévérer. Parce qu'il savait qu'en persévérant avec lui, il y avait une bénédiction derrière. Vous le sentirez. Il y aura des gens dans votre vie. Il y aura des rencontres dans votre vie qui feront que vous saurez très bien que derrière cette rencontre, il y a une bénédiction. Mais qui dit bénédiction, dira opposition. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec ces quatre personnages. Il y aura forcément des moments, comment dirais-je, difficiles. Et même la propre personne en question va vous bousculer, va vous remuer. Mais c'est pas grave, je m'accroche. Parce que ces gens-là croient en votre potentiel. Croient, je dirais, à ce que vous avez reçu du Seigneur, de votre vie spirituelle. Ces personnes vous challengent, vous poussent à prendre des risques et à sortir de votre zone de confort. Voient des modèles. Moi, je crois qu'il y a des modèles. Des gens qui sont des exemples. Et on le voit au travers de l'apôtre Paul. Soyez mes imitateurs. Or, c'est vrai que le meilleur des imitateurs, et ça, on en conviendra tous, c'est Christ, c'est le Seigneur. Pas de souci. Mais je sais que sur cette terre, il y a des hommes, des femmes de valeur, de talent. Des exemples pour chacun d'entre nous. Des modèles. sur lesquels on peut s'inspirer, qu'on peut prendre vraiment de leur qualité. Oh, ils ont des défauts comme tout le monde, certes, c'est vrai. Mais ce sont des gens qui ont vraiment reçu quelque chose et qui seront capables de vous le transmettre à un moment donné, à un moment voulu de votre existence. Et c'est ce qui s'est passé avec Élie et Élisée. Ils veulent sortir le meilleur de vous-même afin de mettre votre potentiel au service de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de très important que le Seigneur voudrait faire pour chacun d'entre vous. Et puis, je terminerai avec un troisième type de personnes que Dieu enverra vers vous. Nous le trouvons dans ce passage de 2 Rois au chapitre 4. Dans 2 Rois, chapitre 4, verset 8. Ah, il s'est passé quelque chose de particulier là. C'était un jour, Élisée passait à Sunem. Il y avait une femme de distinction. Et cette femme, son mari était âgé, était fatigué, elle voulait avoir des enfants, elle ne pouvait pas en avoir. Elle s'est retrouvée dans une circonstance où elle était vraiment blessée dans son cœur, dans sa vie. Elle était là vraiment avec une douleur et on le voit au verset 14, il dit, ça c'est Élisée, il dit que faire pour elle. Et Gehazi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Gehazi l'appela et elle le présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine tu embrasseras un fils. Mais là, il y a quelque chose de particulier. Elle dit, non mon Seigneur, non, homme de Dieu, ne me trompe pas, ne trompe pas ta servante. Je crois que cette femme, elle était en souffrance. Combien de fois on a dû lui promettre d'avoir un enfant? Et elle attend toujours. Combien de fois on a dû lui promettre qu'elle allait enfanter un fils? Et qu'elle s'est retrouvée toujours là, je dirais, à attendre cet événement. Et elle s'est retrouvée vraiment avec des douleurs, avec peut-être un désarroi. Cette femme a une rencontre d'espoir. Et cet espoir s'est Élisée à ce moment-là. Mais elle est toujours dans la crainte, elle est toujours dans la peur. Elle était dans un moment de douleur extrême. Et puis, on va s'en apercevoir, elle va être déçue parce qu'au verset 35, il nous est dit ceci, il nous est dit que cet enfant qui est né, eh ben, est décédé, il est mort, c'est le désarroi, elle comprend plus, mais Seigneur, tu m'avais dit que je recevrais cet enfant, j'aurais cette bénédiction, et voilà qu'il grandit, qu'il commence à prendre de l'âge, et puis, ouais, subitement, il meurt. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? C'est toi qui m'as trahi? C'est Élisée qui m'a trahi? Et elle s'est retrouvée dans cette douleur. Et quand elle a rencontré Élisée, alors Élisée s'est mis à prier pour cet enfant. Il s'est mis sur le ventre de cet enfant qui s'est réchauffé. Et voilà que cet enfant a repris vie. Il y a eu la bénédiction. Mais il y a eu des douleurs. Il y a eu des doutes. Il y a eu des interrogations. Il y a eu des moments de trouble. Cette femme s'est retrouvée vraiment bousculée au plus profond de son cœur. Et je voulais vous dire une chose, je crois qu'à un moment donné, le Seigneur va faire des connexions divines qui vont être des bénédictions extraordinaires. Mais il va y avoir des moments de changement, des moments de modification qui n'étaient pas prévus à ton programme, à toi, que tu n'avais pas envisagé. Et tu t'es dit, mais elle m'a trahi? Peut-être c'est Dieu? Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Seigneur, tu m'avais fait cette promesse, et voilà que cette promesse étant là, elle disparaît, elle part, elle s'enfuit, elle me glisse entre les doigts. Et peut-être dans ton cœur, tu vas te sentir comme détruit, brisé, comme trahi. Un homme de Dieu disait ceci, dans un domaine ou dans un autre, vous rencontrerez toujours des personnes qui sont soit au-dessus de vous, au même niveau que vous ou en dessous de vous. Ce n'est pas que ces personnes sont meilleures que vous, mais elles peuvent simplement être au-dessus de vous dans un certain domaine pour vous tirer vers le haut. Et j'aime bien ce passage de la Bible où il dit que le fer aiguise le fer. Et à un moment donné de ta vie, ces personnes-là, comme Élisée avec cette femme, Sunem, eh bien, a tiré vers le haut cette amie. Elle a appris beaucoup dans cette affaire. Elle a appris beaucoup à la naissance, elle a appris beaucoup à la mort, elle a appris beaucoup à la résurrection de son fils. Elle a appris beaucoup. Elle a appris une chose, c'est de faire toujours confiance à Dieu. À un moment donné, tu vas avoir des connexions divines dans ta vie, tu vas rencontrer des personnes qui vont bousculer ta vie, mais qui vont le bousculer dans les deux sens. Et tu sauras que derrière, je dirais tout cela, ça sera vraiment la main de Dieu qui aura conduit. Ce ne sera pas le diable, vous savez, des fois on met le diable à toutes les sauces. Oh, j'ai de l'opposition, c'est le diable. J'ai un problème au ventre, c'est le diable. J'ai peur de la nuit, c'est le diable. On met le diable de partout. Mais à un moment donné, le Seigneur va permettre de te bousculer au travers de cette connexion divine, juste pour savoir si tu restes toujours fidèle à Dieu, si tu restes toujours accroché au Seigneur, si tu restes toujours là à t'appuyer sur ton maître, pas que quand tout va bien, mais parfois quand tout va mal. Parce que c'est facile de louer le Seigneur quand tout va bien. Vous n'êtes pas aperçu de ça ? C'est facile, vous ne pouvez pas savoir, c'est extraordinaire, on rentre dans la chambre, on loue, on adore le Seigneur. Et dans les moments de difficulté, on n'arrive même plus à ouvrir la Bible. Mais est-ce que ton cœur sera toujours le même vis-à-vis de ton maître ? Le même vis-à-vis de ton Seigneur ? On a eu des binômes dans la parole de Dieu. Moïse, Aaron, Joseph et ses frères, David et Jonathan, Paul et Timothée, Paul et Marc. Et je peux vous en citer d'autres. À un moment donné, il y aura quelqu'un qui viendra t'accompagner, il sera ton binôme. Il sera celui qui va être ta bénédiction pour toi. Et peut-être qu'un jour, tu seras, toi, cette personne qui va être en bénédiction pour l'autre. À un moment donné, tu vas être utilisé, Dieu permettra que tu sois cette personne qui va apporter cette grâce, cette bénédiction, je dirais, dans la vie de ton prochain. Tu vas peut-être être un jour, devenir celui que Dieu a envoyé pour les autres. Vous voyez, alors, inspirez-les. Influencer, positiver dans ce sens-là, apporter toujours, tirer vers le haut. Oh, il y aura des moments difficiles, c'est vrai, mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est pour cela que je le disais tout à l'heure dans 1 Corinthiens 11, 1, je vais terminer avec ça, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Motivez, encouragez-vous mutuellement, je crois que c'est ce que le Seigneur nous demande. Nous avons besoin de nous tirer vers le haut. On est dans un monde de violence, on est dans un monde d'indifférence, on est dans un monde de haine, de jalousie. Si on voit ça au milieu de l'Église, alors c'est plus la peine. Où on va trouver l'espoir ? Où on va trouver notre joie de vivre ? Où on va trouver notre espérance ? Je crois que le Seigneur a mis en place une Église, une belle Église, l'Église de Christ. Et comme nous disait tout à l'heure notre frère Philippe, que nous puissions toujours rester dans cet amour de Dieu, alléluia. Parce qu'à un moment donné, mon frère et ma sœur, l'amour de Dieu voudra que peut-être ton prochain soit ton binôme, soit cette bénédiction pour toi, soit une bénédiction pour ceux qui vont t'entourer, dans ta famille, dans tes voisins. Je vais juste terminer avec ça parce que j'y pense maintenant. J'avais un frère qui avait un différend avec un autre frère. Il y avait quelque chose depuis des années et des années. Il y avait quelque chose qui... Voilà, bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Et ce frère ne pouvait plus se parler, ne discutait plus, se croiser, ciao, au revoir. Et ils étaient vraiment dans une distance, mais vraiment très éloignés. Et puis à un moment donné, dans une circonstance très particulière, alors que un des frères particulièrement ne voulait pas parler à l'autre, était là vraiment dans une distance très prononcée, à un moment donné, un moment particulier de la vie, le Seigneur a permis qu'il aille voir ses frères parce qu'il avait une situation qu'il devait régler dans sa vie personnelle, dans son foyer, dans son... Et seule cette personne là-bas, qu'il ne pouvait plus voir, avait la solution pour lui. Et il était en jeûne et prière, il cherchait la face de Dieu. « Seigneur, sors-moi de là !» Et il dit « Oui, j'ai une solution. C'est ton frère là-bas. »« Seigneur, non, mais c'est pas ça, je dois me tromper, c'est l'adversaire qui me met toutes sortes de pensées. » Seigneur, sors-moi de là, donne-moi une solution au travers peut-être de l'église, du pasteur, des anciens, des frères, des sœurs. Seigneur, je veux vraiment que tu me sors de là. Oui, j'ai trouvé la solution. Il faut que tu ailles voir ce frère là-bas. Ça a duré 6 mois cette affaire. 6 mois cette affaire. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il se retrouve, mais au pied du mur. C'était toute sa vie qu'allait basculer de l'autre côté s'il ne plie pas le genou. Vous savez l'autre frère là-bas ? Dieu l'avait déjà parlé et il attendait. Il attendait. Et 6 mois après, il frappe à la porte. Il dit, écoute, je ne veux pas discuter avec toi sur mes problèmes. Je veux juste te dire une chose, c'est que Dieu m'a demandé de venir te voir parce que tu as la solution pour moi. Et ce frère a dit, oui, c'est vrai. J'ai la solution pour toi. Mais avant tout, je voudrais d'abord qu'on règle notre solution entre nous, notre problème entre nous. Se prendre dans les bras, commencer à se réconcilier, à briser cette glace, à se demander pardon. Parce que de toute façon, tout passait par là, en fait. La bénédiction passe d'abord par le pardon. Ils ont commencé à régler leur affaire ensemble. Ils ont discuté, ils ont parlé plus de 2 heures ensemble. Vous savez quoi ? À la fin, ils se sont aperçus que c'était sur des malentendus qu'ils s'étaient fâchés depuis presque 10 ans. Sur des malentendus. Et à partir de là, ils ont construit leur vie, ils ont commencé à racheter le temps. Et puis ce frère qui était si détesté, eh ben, était une clé pour sa vie, pour sa famille, pour son foyer, pour ses enfants, pour tout le monde. Vous voyez, à un moment donné, Dieu peut nous surprendre. Notre Élie peut être mon frère, ma sœur, mon voisin, celui que je ne veux plus croiser depuis quelques années, je ne veux plus le voir, je ne veux même plus en parler avec lui, je ne veux même plus discuter avec lui. Le Seigneur a de l'humour, mais parfois il peut faire ça. Mais juste une chose, c'est que tôt ou tard, tu vas rencontrer la personne qui va changer et déterminer l'existence de ta vie. Alléluia. On va courber nos fronts. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier. Tu es un Dieu de grâce, un Dieu de bénédiction. Seigneur, tu es celui qui change, qui touche, qui transforme, qui bouleverse. Tu es celui qui nous étonne. Mais Seigneur, tu es celui qui a toujours le dernier mot, Seigneur. Dans la mesure où nous appuyons sur toi, que nous confions en toi, Seigneur, notre seul souci, c'est que tu es la première en place. Seigneur, et que nous puissions réaliser que c'est toi qui as toujours raison. C'est toi qui as toujours raison. C'est toi qui as toujours le dernier mot. Alors aide-nous, Seigneur Jésus, à nous laisser conduire par toi, à nous laisser diriger par toi, à nous appuyer sur toi. Seigneur Jésus, nous voulons vraiment nous laisser nous abandonner entre tes mains afin que nous soyons vraiment des connexions divines pour les autres. Mais nous voulons être aussi à ton écoute pour que nous puissions recevoir et accueillir cette connexion divine pour notre vie, pour notre avenir. Conduis-nous, Seigneur, et dirige-nous dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.